Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je vais remercier les gens du SAD qui nous ont permis d'être ici réunis aujourd'hui. Deuxièmement, les gens de l'organisation espérantiste. Et en troisième lieu, je dirais tous les gens qui ont accepté, industriels ou autres, de participer avec moi à la réalisation du stand que vous avez vu, que vous verrez dans le sein du SAD. Bien, je voudrais m'expliquer sur l'hommage que j'ai voulu rendre au docteur Esperanto, Louis-Lazare Zamenhof, car je dois l'avouer, je ne suis pas espérantiste moi-même, et je dois dire que c'est à la demande des organisateurs du SAD, lorsqu'ils ont formulé hommage à, que l'idée m'est venue de penser à quelqu'un qui a pu faire quelque chose de généreux, avec une visée universelle, et je dirais de simple à la fois, dans le sens que c'est à la portée de tous. Zamenhof, dont j'ai entendu parler, je pourrais dire, dès ma plus tendre enfance, représente pour moi un rêve de gosse. Et je crois que ce rêve de gosse, en fait, c'est l'amitié entre les peuples, entre les races, entre les gens. Et je crois qu'aujourd'hui, il était temps de réactualiser ce message. Et c'est en cela que hommage à Zamenhof m'a intéressé. Je crois qu'aussi, avec cette possibilité, et par le biais de mon travail, j'ai rencontré là une idée de design global. À savoir que le design, qui jusque-là, ou tout au moins est perçu comme quelque chose de parcellaire dans la société industrielle, en cela qu'il ne touche qu'à la production, a un rôle, je crois, beaucoup plus large, culturel et social, et en cela, le docteur Zamenhof avait imaginé, je crois, un produit qui était donc véhiculable pour tous et qui permettait, je crois, la compréhension réciproque. Voilà pourquoi, au deuxième niveau, je dirais que ce stand est ici aussi une dimension du design au sens large et que je ne me suis pas départi de mon rôle, je dirais, de professionnel en ménageant, je dirais, les relations socioculturelles du travail. Ensuite, je dirais que le rêve d'enfant devient quelque part une utopie quand il est pris en charge par l'adulte. Et je voudrais rectifier le tir à ce niveau-là. L'utopie, ça veut dire qu'il y a un pouvoir équivoque quelque part, qu'il y a une prise de conscience un peu grave peut-être au sens économique du terme, et que certaines grandes idées sont abandonnées parce qu'elles recouvrent des intérêts très cachés, très difficiles à percevoir parfois, mais qui font que certaines langues notamment deviennent hégémoniques par rapport à d'autres cultures. Et je crois qu'il fallait aussi aujourd'hui, dans un cadre comme celui du SAD, où le parti principal est en fait de faire rêver les gens, c'est de les faire rêver comme le font les enfants, avec des idées simples et saines. Voilà pourquoi nous sommes ici et que je suis heureux de recevoir notre confrère américain notamment, qui va nous expliquer les apports de l'espéranto pour l'enseignement. Merci.
Bon, merci, monsieur Masson, monsieur Rago, si j'ai bien prononcé. Je suis américain, donc j'aurai des problèmes, quelques problèmes pour bien parler le français. On verra après. De toute façon, est-ce que je peux m'asseoir? Je suis venu à pied. Et où se trouve mon hôtel? À Gambetta. À Gambetta, et je fais ça pour venir ici. C'était très drôle. Je l'aime bien. Mais maintenant, peut-être, je peux m'asseoir. Oui. Bon, je pense que c'est la première conférence en français que j'ai donnée avec de la musique. Donc, ça me plaît beaucoup et j'espère que à vous aussi. Mais j'ai une question à poser avant de commencer. J'ai constaté qu'à Paris, le temps est très bon. C'est aujourd'hui ou c'est une habitude, une coutume, parce que c'est juin aujourd'hui, c'est comme en juin, j'imaginais. Je suis curieux aussi, avant de commencer, vous avez appris, j'imagine, des langues à l'école. Je ne sais pas combien, mais je suis curieux. Qui a appris l'anglais à l'école? Il y a quelques-uns. Bon. Qui a appris l'allemand? Ah, très bien. Deux langues. Le latin? Oui. Ouais. Quelquefois, je pose cette question pour voir quel est l'âge des gens dans le groupe, parce qu'aujourd'hui, on a changé l'enseignement des langues. Qui a appris l'espagnol? Très bien. C'est presque ma langue préférée. Oui. Je peux faire le français. Mais à Madrid, je dis l'inverse quelquefois. Donc, attention. Bon. Quelquefois, je pense que normalement, quand on parle de l'espéranto, on parle de la communication internationale, les possibilités de l'espéranto pour les ordinateurs, pour le tourisme, pour la science. Donc on parle de l'utilisation de l'espéranto pour des buts précis. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de l'espéranto pour l'enseignement. Donc, je ne vais pas mentionner les avantages de la neutralité, le fait que l'espéranto puisse ou peut améliorer la communication internationale. C'est à côté de ce que je veux dire aujourd'hui. J'aimerais parler de l'enseignement. Qu'est-ce que c'est l'enseignement? Bon, d'abord, on a trois groupes. On a les élèves, les étudiants. On a aussi les profs, les instituteurs, les institutrices, les enseignants. Et troisièmement, on a les scientifiques, les gens qui, aujourd'hui, de plus en plus, commencent à étudier scientifiquement l'apprentissage des langues. J'appartiens un petit peu au troisième groupe, mais aussi au deuxième et aussi au premier. Je suis élève des langues, je suis prof, ou instituteur, non, en français ça veut dire au lycée, je pense, ou à l'école. De toute façon, j'enseigne l'anglais à la fac de Rabelais, l'université Rabelais à Tours, et aussi à l'école supérieure de commerce. Donc je suis aussi prof. Mais aussi, j'aime étudier l'apprentissage des langues scientifiquement, un petit peu. Donc, ce sont les trois choses. Donc, je pense que l'espéranto est très bon pour l'apprentissage des langues. Donc, j'aimerais d'abord parler aux élèves, aux étudiants. Il faut imaginer un petit peu que tout le monde ici soit élève ou soit étudiant à l'université et on est en train d'étudier des langues. Donc, je veux dire que si vous êtes à l'université ou si vous êtes à l'école ou au lycée et vous voulez apprendre l'anglais ou le chinois, ou l'espagnol, ou le latin même. D'abord, je vais vous recommander que vous étudiez l'espéranto. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ce serait une bonne idée d'utiliser l'espéranto. Donc, comme élève ou comme étudiant, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour tout le monde. Et je parle de tous les élèves, et de tous les étudiants de tout le monde. Si vous êtes à Pékin et vous allez apprendre le japonais, ou bien si vous êtes au Tokyo et vous allez apprendre le chinois ou l'arabe, par exemple, je pense que c'est une bonne idée d'abord d'étudier l'espéranto. C'est clair, je parle parce que j'ai 72 élèves à Tours, 72. Et maintenant, je parle deux fois plus fort qu'à Tours. Donc, je pense que c'est l'acoustique ici. Oui. De toute façon, je peux crier pendant 3 minutes, mais après cela, je vais perdre ma voix. Donc, ouais. Comment s'appelle en français ce trou qui est comme ça?
Porte-voix.
Oui, j'aimerais bien en avoir un. Ok. Donc, mais pourquoi est-ce que je pense que l'espéranto va aider les élèves et les étudiants partout.
Bon.
J'ai mes raisons et j'ai une liste ici. J'ai tout écrit en espéranto. Je vais traduire un petit peu en français. On verra quelles sont mes raisons. D'abord, au premièrement, ou la première chose, si l'on apprend l'espéranto, on peut apprendre une langue complètement, tout à fait, 100%. Je parle de la grammaire. C'est possible. Deux, c'est possible d'apprendre l'espéranto du premier mot jusqu'à la dernière règle de la grammaire. Ouais. On peut comparer. Combien d'heures est-ce qu'il faut pour apprendre l'allemand si on est américain comme moi ou peut-être français comme vous? J'imagine qu'il faut au moins 1000 heures à l'école. 1000 heures pendant plusieurs années, 1000 heures, donc 105 ans chaque année pendant 7 ans, par exemple. Mais on apprend, mais il faut pratiquer aussi. Donc j'imagine entre 1000 heures et 3000 heures pour pratiquer l'allemand. Donc avec ça, on peut apprendre l'allemand. J'ai fait mes 1000 heures, j'ai fait l'Institut Goethe en Allemagne, j'ai vécu en Allemagne. J'ai appris l'allemand comme ça. Je l'ai oublié un petit peu. Pas totalement, mais un petit peu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? On va comparer maintenant l'espéranto. Combien de temps est-ce qu'il faut pour apprendre l'espéranto? Au lieu de 1000, j'imagine 105 ans dans les cours avec un prof à l'école. Et combien de temps pour le pratiquer? J'imagine, au lieu d'entre 1000 et 3000, entre 100 et 300 pour le pratiquer. Donc, il y a une grande différence. Et qu'est-ce que c'est le résultat de cet apprentissage? Quand on a appris une langue complètement, et je dis, et je veux souligner, et emphatiser, bon, de toute façon souligner que il faut apprendre cette langue complètement ou presque pour l'utiliser, pour le parler sans penser. Si l'on a fait, on peut dire je suis bilingue. Je parle vraiment deux langues. Vous avez étudié l'anglais, l'espagnol, le latin et l'anglais ou l'allemand. Combien d'entre vous, est-ce que vous pensez que vous pouvez parler l'allemand ou l'anglais couramment, complètement? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, oui. L'anglais, au moins. Non. J'ai parlé trop vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a étudié l'anglais et qui est capable de dire que vous pouvez le parler couramment, complètement? Non? Non? Oui? Ça dépend de les circonstances. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, écouter la radio américaine et tout comprendre. Ah oui. Oui. Et par là, je veux dire complètement. Il faut écouter, il faut lire, il faut faire beaucoup de choses. Pardon?
Ce n'est plus la radio anglaise, la radio américaine.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon. Donc, quelqu'un qui a appris une langue peut dire je suis bilingue. Je peux parler vraiment deux langues. Je peux apprendre les langues. J'ai eu des élèves, je me souviens,
il y a 7 ans, quand j'étais à Madrid et j'enseignais l'espéranto. Et il y avait un élève qui était là, il avait 15 ans, il étudiait l'anglais.
Oh.
Il n'aimait pas tellement les langues, mais il a appris l'espéranto. Après ce moment-là, il a compris qu'est-ce que c'est ou ce que c'est d'apprendre une langue au but. Je suis rentré à Madrid il y a 1 an ou 2 ans et j'ai demandé où se trouve Jorge. Je pense que c'est Georges, peut-être en français. Jorge. Ah bon, il est à la fac. Ah oui? Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il étudie les langues. Ah, c'est vrai? Oh, Jorge. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il étudie? Alors, il y a des profs de langue ici. Ouais. Bon, l'arabe. L'arabe, ouais. Et l'hongrois.
L'hongrois?
Et le finlandais. Finnois, c'est ça?
Oui,
c'est ça. Et où est-il maintenant? Oh, il est en Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle arabe, avec les arabes, évidemment. Donc, je suis sûr que je connais ce monsieur, cet enfant, Jorge, quand il ne parlait pas l'anglais, quand il ne parlait pas l'espéranto. Mais après cela, je pense qu'il a pris courage pour continuer. Il avait beaucoup de confiance comme enfant. Et j'ai vu ce cas-là se répéter plusieurs fois dans mes 10 ans de l'enseignement des langues. Oui, on a de la confiance. Et à mon avis, comme prof d'anglais, prof, j'ai enseigné aussi d'autres langues, c'est la confiance. Si on a la confiance, après cela, on peut tout apprendre. Ouais. Mais pourquoi cette confiance? Pour moi, je pense que c'est que l'espéranto nous offre une fenêtre aux langues. On peut voir beaucoup de choses des langues ou des langues en général. Bon, je vais expliquer. Par exemple, imaginons un enfant qui a 12 ans, 13 ans, qui étudie l'espéranto. Il commence à comprendre la phonétique, la prononciation. On sait qu'en espéranto, un son a une lettre et une lettre a un son. On apprend ça très vite et très bien. Et on a une base de la phonétique très bien. Pour l'anglais, ce n'est pas le cas. Quelquefois, un son a au moins 15 lettres. 15. Et une lettre a beaucoup de sons. Et c'est très compliqué si on va compter les combinations, les probabilités et tout cela. Mais l'enfant est préparé. Les enfants américains, je pense qu'ils doivent apprendre l'espéranto. Parce que c'est une bonne façon d'éviter les diphtongues. Si je commence à parler le français comme américain, on va très vite constater qu'est-ce que c'est les voyelles en anglais. Je vais essayer. Je dois penser en anglais. Maintenant, je voudrais parler le français avec les voyelles américaines. Mais en même temps, je voudrais parler avec les consonnes français. C'est comme ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est différent. L'enfant américain qui apprend l'espéranto va être prêt à apprendre l'espagnol parce que les voyelles sont les mêmes. Le japonais parce que les voyelles sont les mêmes, sauf la ou. Et pour la ou japonaise, il faut sourire un petit peu et ça va. Ouais. On le change comme ça. Aussi, les personnes qui étudient l'espéranto vont comprendre la grammaire et ils vont la comprendre au fond, ou à fond. Et ça, c'est très important. Il y a 50 années, ou 10 années, on étudiait le latin. Et les gens qui ont étudié le latin vont comprendre beaucoup de choses sur l'accusatif, le datif, l'accusatif, datif, et toutes ces choses-là. Et quand on apprend après, par exemple, même l'anglais, ces choses-là existent dans l'anglais, mais c'est très difficile de les voir. Donc, avec l'espéranto, comme j'ai dit avec l'allemand, au lieu de 1000 heures, on peut maîtriser ces concepts après 100 heures ou 150 heures de cours, par exemple. Oui. Et est-ce que vous savez que, bon, j'ai fait une expérience avec le chinois. J'ai essayé d'enseigner un prof de chinois à m'enseigner le chinois. Je ne sais pas si ça c'est clair. C'est-à-dire, ce prof de chinois n'était pas un prof de chinois. Elle parlait le chinois parce qu'elle était chinoise. C'est clair. Ouais. Mais elle n'avait aucune idée sur l'enseignement. Mais moi, comme je suis linguiste, un petit peu pédagogue, j'ai utilisé mes connaissances de la pédagogie pour enseigner cette dame à m'enseigner le chinois. Bon, je n'ai pas beaucoup avancé, mais c'est une autre histoire. Mais ce qui est curieux, c'est ma connaissance du mot « chu » en espéranto qui m'a vite compris que, oh, en chinois, c'est la même chose, mais c'est à la fin de la phrase au lieu de la première partie. Ni hao ma, tiu, tiu. J'ai changé de langue, c'est espéranto ça. Bon, je vais recommencer. Quand on dit ni hao ma en chinois, bon, ça s'appelle une particule dans les langues, ma. En espéranto, c'est la même chose, mais c'est à l'avant pour indiquer, c'est chu. En espéranto, mais c'est la même chose pour indiquer que maintenant c'est une question et la réponse est oui ou non. C'est simple. Donc il y a des choses comme ça qui aident les élèves à comprendre la grammaire de plusieurs langues, mais pas toute la grammaire, mais on commence à penser comme quelqu'un qui connaît la grammaire. Et ça aide beaucoup. Et aussi, ce qui est curieux de l'espéranto, c'est que c'est très flexible comme langue. On peut dire sujet, verbe, objet, ou bien objet, verbe, sujet, etc. Il y a 6 manières d'arranger la phrase. Et dans ce monde, il y a... Est-ce que vous savez combien de langues y a-t-il dans le monde? Combien? Plus de 3000, 4000, bon, 3500, oui c'est vrai, 3500 à peu près, oui, 3500. Donc il y a des langues qui vont utiliser le verbe comme premier mot. Le turc, par exemple, au lieu de dire, je n'ai pas écrit l'exemple, mais la patience, j'ai vu cette personne, en turc c'est je, cette personne, vu et vu. Je répète, je, cette personne et vu. Bon, donc c'est une langue comme ça. Bon, si j'ai des élèves qui vont apprendre cette langue turque, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais expérimenter un petit peu. Je vais faire une expérience et je vais dire, maintenant on va parler l'espéranto comme si c'était le turc. Et on va utiliser le sujet, après l'objet et après le verbe. Ouais, on peut faire la même chose pour le japonais, pour d'autres langues aussi. C'est une expérience curieuse, comme ça. Mais bon, j'ai une liste des choses qui peuvent aider les élèves à parler les autres langues s'ils ont appris déjà ou d'abord l'espéranto. Mais j'aimerais mentionner une dernière chose, et je pense que vous n'avez jamais pensé à ça, parce que normalement, on ne pense pas à ça. Mais quelqu'un qui parle l'espéranto utilise toute la grammaire, mais aussi, et c'est très important, les fonctions des langues. Qu'est-ce que c'est une fonction? C'est quand on doit saluer, on doit se plaigner, on doit critiquer, on doit exprimer ses idées, on doit parler de l'espace et tout cela. Et quelqu'un qui parle une langue très bien a appris comment faire tout cela. On peut le faire avec l'allemand, on peut le faire avec l'espéranto. C'est pour cela, à mon avis, que les gens qui ont appris déjà du langue sont capables d'apprendre une troisième, une quatrième, une cinquième et tout cela. Donc, j'ai donné des exemples de la grammaire, de l'espéranto, des choses qui, à mon avis, aident les élèves à apprendre d'autres langues. Pour résumer, c'est la confiance. C'est la confiance. Je suis bilingue, je peux apprendre toutes les langues du monde. Mais il faut d'abord apprendre la langue. Pas un petit peu, oui, je comprends la moitié, oui, avec beaucoup d'imagination, je pense qu'il a dit ça. Non, ce n'est pas ça. C'est la pensée complète. C'est la pensée, c'est la façon de parler et d'éviter parler comme ça, mais parler rectement, directement. C'est ça. Ouais. Bon, donc, à mon avis, il y a des avantages pour les élèves, mais aussi l'espéranto peut offrir quelque chose aux enseignants, aux profs, aux instituteurs, aux institutrices. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui enseigne, qui était prof ou instituteur, institutrice de quoi? De
français.
Ah, de français. Ah, très bien. Oui. Est-ce que vous allez prendre des notes sur ma façon de parler le français? Non? Aujourd'hui n'est pas un jour de travail. Ah bon. 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 Je pense que l'espéranto peut aider les profs aussi. Et pour les élèves, j'ai dit que je pense que les élèves, tous les élèves du monde doivent apprendre et utiliser l'espéranto. Pour les profs, il y a une chose de plus. Il faut apprendre l'espéranto, il faut utiliser l'espéranto et il faut l'enseigner. Il faut être prof d'espéranto. Après cela, on peut oublier l'espéranto. Je parle d'une expérience personnelle. C'est comme à l'école, on a appris, j'imagine, la biologie. Il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 50 ans. J'imagine qu'aujourd'hui, ces connaissances vont porter des fruits, des avantages. Oui. Mais j'imagine qu'on ne parle pas de la biologie toute la journée. Mais j'imagine qu'il y a des choses qui restent. C'est la même chose pour l'espéranto. Donc, apprendre l'espéranto, utiliser l'espéranto et enseigner l'espéranto. Donc, pourquoi je pense que les profs doivent faire tout cela? D'abord, il y a trop de profs, trop d'enseignants dans ce monde qui n'ont pas appris une langue tard. Je vais expliquer. À mon avis, les meilleurs profs des langues, ce sont les gens qui ont des difficultés pour apprendre cette langue. Parce que ce sont les gens qui sont comme les élèves. On ne veut pas Shakespeare pour enseigner l'anglais. Il sait trop. C'est trop facile pour Monsieur Shakespeare. On veut quelqu'un qui a vu, qui a été élève récemment. Donc, pour l'espéranto, pour les profs qui ne comprennent pas leurs élèves, j'aimerais les mettre tous dans mes cours d'espéranto. De cette façon, ils sont élèves. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez là? Oui. Bon, je peux faire la même chose avec le chinois, mais je ne sais pas comment enseigner le chinois. Et aussi, le chinois, ça va durer longtemps pour voir les résultats. Donc non. Aussi, le prof d'espéranto va apprendre un système complet de la grammaire. Pour combien de profs est-ce que je connais qui ne connaît pas la grammaire? Or, il connaît des détails, mais il ne connaît pas le système complet. Quand j'étais en Allemagne, au Institut Goethe, par exemple, j'avais un prof qui était très bon, qui avait beaucoup de connaissances, mais pour le fait que l'allemand a deux participes seulement, il n'était pas capable de clarifier les différences entre les deux. Or, l'espéranto a 12 participes, ou bien 18, ça dépend de votre point de vue. Et comme je comprenais le système de l'espéranto, j'ai pu aider le prof, mon prof d'allemand. Je ne parlais pas l'allemand, mais je comprenais le système. Donc j'ai dit, ah, je comprends, c'est ça et ça. Et après cela, il a dit, ah oui, oui, c'est vrai, c'est ça. Et tout le monde, tous les élèves ont compris. Ouais. Donc, quand on utilise l'espéranto, on comprend le système de la grammaire. C'est comme les gens qui ont étudié le latin à fond. Ils comprennent le système comme toutes les pièces, comme tous les morceaux. Quel est le mot en français? Se ressemble. Se relie. C'est ça. Merci beaucoup. Ok. Donc, on comprend le système. Ouais. Mais la troisième chose que je veux dire, c'est très important. Très important. Quand on a enseigné l'espéranto, on voit très bien et très vite que pour parler une langue, ce n'est pas une chose de la grammaire. Oui et non. On peut apprendre toutes les règles de la grammaire et rien dire. L'autre jour, je parlais avec ma femme et je disais, c'est comme apprendre à conduire une voiture. 5 minutes, je pense que vous êtes capable de me donner toutes les règles pour conduire. Oui, je comprends, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça, avec le pied. Oui, je fais ça avec le volant. Mais je ne suis pas capable. Il faut pratiquer. Et avec l'espéranto, on comprend. On peut donner beaucoup de règles pendant les premières leçons. Et si on n'a pas pratiqué, les élèves sont comme ça. C'est comme la voiture. Les instituteurs et les professeurs de l'anglais n'ont pas compris ça. Pour la première année, on donne les règles. Les élèves ne parlent pas. La deuxième année, il faut donner plus de règles. Les élèves ne parlent pas. La troisième année, plus de règles. Et chaque fois, les règles sont de plus en plus petites. Et on ne parle pas. C'est logique. Si on enseigne l'espéranto, on comprend, même avec un système clair. Et il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est comme la voiture. Donc, l'espéranto apporte ce détail au prof. Oui. Une autre chose, avec l'espéranto, le prof va voir les résultats de l'enseignement. Avec l'anglais, ce que je vois à la fac, c'est ça. Je vois des mouvements. Je vois des gens qui apprennent quelque chose comme ça, et après ils apprennent ça. Et je vois des mouvements, mais pas de progrès. Ouais. Avec l'espéranto, on voit le progrès comme ça. Et de cette façon, on comprend quelle est la relation entre l'enseignement et les résultats. Et c'est très important. Très important. Aussi, avec l'espéranto, comme on voit les résultats, on peut changer les méthodes, les techniques de l'enseignement, et on peut voir les résultats. C'est comme des expériences scientifiques, entre guillemets. On peut changer quelque chose et on va voir le résultat. Avec l'anglais, non. Le chemin est trop long. Et le temps à l'école est trop court pour voir des bons résultats. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai parlé des élèves. J'ai parlé des profs, des instituteurs. Mais aussi, l'espéranto peut donner des idées aux scientifiques, les linguistes, les gens qui étudient les langues. Et au lieu de parler beaucoup sur ou à ce sujet-là, je vais parler un petit peu et terminer. Et peut-être on veut me poser des questions. Mais avant, je vais parler un petit peu des scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, les linguistes, les psychologues, les pédagogues qui étudient l'apprentissage de la deuxième langue, ces gens-là sont très importants. Chaque année, il y en a de plus en plus. Oui. Ils vont étudier, par exemple, l'apprentissage de la deuxième langue par rapport à l'âge, par rapport à le style psychologique, par rapport au cerveau. Est-ce que vous savez peut-être où se trouve votre langage? Pas ici. On est d'accord. Ici. Mais où? À droite ou à gauche? Bon. Combien de vous qui est, comment on dit en français, droitier? Droitier, qui est droitier? Presque tout le monde. Ouais, droitier. Bon. Il y a 95% de probabilité que votre langage se trouve à gauche. Ici, à peu près. Ici, ici. La grammaire, ici. Les mots, ici. J'ai simplifié un petit peu, mais à peu près, c'est ça. Et 5% de probabilité que le langage se trouve ici, à droite. Qui est gaucher, pas gaucher, gaucher, gaucher. Bon, pour vous, 70% de probabilité que votre langage se trouve aussi à gauche, 15% à droite et 15% à deux côtés. Je pense que c'est un avantage. C'est vrai, c'est un avantage parce que peut-être vous a entendu parler de l'aphasie. L'aphasie est des problèmes. Donc, un adulte qui souffre de ce côté-là, s'il est droitier, il peut perdre tout le langage. Ouais. Mais, dans votre cas, vous avez, comment dit-on en français, une assurance. Si on est blessé là, on est à l'autre côté. Ouais. C'est comme ça. Bon, ce sont les choses que les scientifiques vont étudier. Et pour terminer, j'ai une liste des choses, mais peut-être il y aura des questions. Je peux dire que l'espéranto, on a dit que l'espéranto n'est pas une langue naturelle. Pour la science, à mon avis, c'est une langue tout à fait naturelle. On peut l'étudier. Les scientifiques ont déjà commencé à étudier l'espéranto. L'espéranto donne le même résultat. L'espéranto ne se trouve là. Il se trouve là, il se trouve là, avec les mêmes règles pour les autres langues. Donc avec ça, j'aimerais dire qu'on a vu aujourd'hui un petit peu les avantages de l'espéranto pour les élèves, aussi pour les enseignants, et aussi un petit peu pour les scientifiques. Et si vous voulez étudier l'espéranto, je pense que c'est une bonne idée pour vous, ou pour vos enfants, ou pour tout le monde, bon, c'est mon avis. Donc j'aimerais vous remercier pour votre attention. J'espère que la musique était bonne. Oui. Il chauffe un petit peu ici. Je me sens comme Johnny Hallyday quand il commence à transpirer. Parce que j'ai vu Johnny Hallyday l'autre jour à la télévision, il transpire comme ça. C'est un... Oui, je pensais qu'on doit lui donner un parpluie. Il a transpiré tellement. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions, je suis là. Bon.